Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs et représentants d'institutions internationales, régionales, chers collègues chercheurs, chers amis et frères, c'est tout un plaisir de vous faire cette présentation qui va concerner la mise en place d'un capital semencier panafricain. Beaucoup de questions étaient soulevées sur les semences et j'ose espérer qu'à travers ce capital, on parviendra d'ici quelques années à mettre quelque chose de durable parce qu'il nous faut parvenir à régler ce problème. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Je dois vous dire qu'elle a été préparée par Dr Harold Roy Makolé, le directeur général d'Africa Rice, et moi-même, expert semencier senior. Je compte faire la présentation en 4-5 points. Premièrement, je vais vous parler assez rapidement de l'importance du riz. Deuxièmement, je vous donnerai quelques données de référence. Vous en avez eu ce matin. J'en ajouterai d'autres. Je vous parlerai également des avantages comparatifs d'Africa Rice pour abriter ce capital panafricain, les bénéfices attendus en termes de valeur ajoutée quand on parle de financement et une petite conclusion. Alors, quand on parle d'importance du riz, j'aimerais soulever deux aspects majeurs. Le premier aspect concerne la valeur nutritionnelle même du riz. Et le deuxième concerne les valeurs socioculturelles. Pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, comme vous le savez bien, le riz est riche en glucides. Qui parle de glucides, parle de carburant. Le carburant pour le corps. Le corps a besoin de carburant. Mais au-delà de ça, vous avez bien d'autres éléments dans le riz. Et qui fait que le riz est aujourd'hui passé comme première culture en Afrique de l'Ouest, hein, culture vivrière je veux dire, et en Afrique subsaharienne, deuxième culture. Il faut savoir que le riz contient des protéines. Les protéines, on en a besoin pour les muscles du corps, mais aussi les muscles du cœur et le système nerveux. Les graisses qui sont assez importantes, surtout pour la constitution, pour maintenir la température du corps. Mais également, nous avons besoin, il y a les glucides. L'ancien terme qui était utilisé, c'est les hydrates de carbone. Mais là-dedans, vous avez le glucose, l'amidon, etc. Et il y a les fibres. Les fibres, je crois que les gens connaissent surtout les fibres saines. Les fibres saines sont importantes pour le transit gastrique. C'est formidable d'en avoir. C'est des matières qui ne sont pas tellement digestibles. Vous avez les minéraux et les vitamines. Alors, tout simplement, un petit résumé à ce niveau, je vous dirais que le riz est important pour la santé humaine, mais le riz, en plus, permet de prévenir contre certaines maladies, notamment le cancer, l'hypertension, mais je citerai entre autres également la dysenterie que les Africains connaissent beaucoup parce que, pour ceux qui s'en souviennent, quand on était enfant, si vous avez les mamans savent bien, si elles ont un enfant qui a la dysenterie, rapidement on lui fait une bouillie de riz. Ça permet quand même d'atténuer la maladie. Au niveau socioculturel, nous allons mentionner les rations alimentaires, les habitudes alimentaires, mais surtout les cérémonies lors des circoncisions, lors des baptêmes, des funérailles, mais également lors des mariages, parce que le riz est considéré au niveau traditionnel comme support, comme symbole de prospérité et de fécondité. Quelques éléments de référence, en plus de ce que vous avez eu. La production actuelle Alors là, c'est 2017-2018, est de 17 millions de tonnes. La consommation, 32 millions. Alors ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de 15 millions de tonnes. Ce manque à gagner est recherché sur le marché international et ça nous coûte 6 millions de dollars. 6 billions, hein? 6 milliards de dollars. Alors, il y a des projections ont été faites par rapport à 2025. Pourquoi 2025, c'est pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et nous devons nous préparer par rapport à ça. Et là, les gens ont besoin. Il y aura un gap de 27 millions de tonnes. Si la tendance, les tendances continuent comme ça, vous avez en rouge les productions actuelles, leur évolution. Vous avez en bleu l'évolution si les choses ne changent pas. Et vous, il y a un gap. Mais ce qui est un peu dangereux, c'est que ce gap est en train de s'agrandir. Et c'est ça qu'il nous faudra arrêter. Dr Harold vous a dit tout de suite que les consommations augmentent de 6,2%, alors que les productions augmentent de 4,6%. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous faudra faire une révolution. Et il ne faut pas trop s'inquiéter. Le problème en Asie a été réglé à travers la révolution verte. Ça veut dire quoi? Au départ, il y avait les variétés, il y avait une innovation, les innovations technologiques, les variétés, surtout la variété IR8, par la suite IR34, etc. Mais au niveau central, c'était IR8. C'était une variété naine. Alors, mais hautement productive, et toute la révolution, le modèle a été confectionné autour de cette variété IR8. En mettant quoi? Des engrais, des insecticides, des herbicides, en mettant également, en réglant le problème du foncier plus ou moins, parce qu'après il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de suicides en Asie, hein, à cause du foncier, il ne faut pas aussi l'oublier. Mais également en mettant à la disposition des producteurs la machinerie, surtout la petite machinerie, et en mettant à leur disposition également des crédits. Je pense que c'est un peu tout ça qui a manqué en Afrique. Quand je fais la relecture de ces différentes révolutions, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit même en Amérique latine, dans une moindre mesure, l'Afrique a connu un parcours qui n'a pas été le parcours qui était prévu. Et c'est ça qui explique que nous avons échoué. Bien sûr, il y a d'autres problèmes historiques sur lesquels je ne veux pas revenir. Mais en grande partie, en tant que technicien, j'aimerais mettre à votre disposition ces éléments-là. Et donc, c'est ça qu'il nous faudra régler. Mais la première des choses à régler, avant tout, ça sera la semence. Et ça ne m'étonne pas que ce matin, les gens soient revenus sur la problématique semencière, qui est attaquée depuis plusieurs années, mais pas de manière hardie. Alors, les États se sont adressés à Africa Rice. Je me souviens, en 2008, moi, j'étais à Rome, j'étais au centre d'investissement, et c'est là où on m'a demandé de venir. Hein, c'est l'actuel ministre de l'Agriculture, Pabse, qui me dit, mais il faut venir nous aider. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, non, il faut régler la problématique semencière. 2008 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Je suis là-dedans, et ben, je ne vois pas encore le bout du tunnel. Hein, c'est quand même assez inquiétant. Donc, je dis, nous disons, au niveau d'Africa, qu'il faut commencer le problème par le début, c'est-à-dire il faut rebâtir les systèmes. Et rebâtir les systèmes, c'est disposer d'un capital semencier, à savoir, depuis le début, avoir les pré-bases et les bases. Une fois que ça, c'est disponible, le reste va être restitué, notamment aux entreprises semencières et coopératives, qui savent très bien faire le travail pour la position des autres semences, les semences certifiées. Alors, il y a eu une interpellation de la 30e session ordinaire du Conseil des ministres d'Africa en 2016. En 2017, il y a eu aussi le Comité national des experts qui nous ont interpellés et qui ont demandé à Africa Rice de constituer des réserves de pré-base et de base pour aider les pays africains à régler cette problématique semencière. Alors, ceci nous a poussé à demander à mettre en place le capital semencier panafricain. Alors, capital semencier panafricain, il faut se dire qu'il y a des particularités au niveau de l'Afrique qui sont assez différentes des autres des particularités des pays asiatiques. Parce que là-bas, il y a eu beaucoup plus de périmètres irrigués. En Europe, il y avait des problèmes, mais ils ont beaucoup misé sur l'irrigation. En Amérique latine, dans une moindre mesure. Mais en Afrique, 80% de la production viendrait des petites exploitations agricoles. Et ces petites exploitations agricoles ne sont pas arrivées au marché et ne bénéficient pas, n'ont pas accès aux semences améliorées, aux semences de qualité. Regardez le cas des pays que vous avez ici. Le cas des pays, vous voyez que ce que vous avez en zone dégradée, ce sont les besoins estimés pour les pays. Et pour ce qui est du violet dégradé, ce sont les productions. Ça, c'est une situation que nous avions faite en 2015 lors de notre réunion dans le cadre du WAP. Mais mieux encore, avec ce WAP, qui est un projet financé par la Banque mondiale, nous avions demandé quels sont les besoins des pays. Et si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire se pose, elle dit, bon, si en irriguant en bas-fond, vous nous aidez à avoir 1000 tonnes de semences certifiées, nous serons vraiment partants, ça nous aiderait à couvrir 27% des superficies. Et quand on prend le pluvial, il nous demande 10 000 tonnes. Est-ce que vous savez à quel niveau nous en sommes? En Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 1400 tonnes par an. Ça veut dire que les 10 000 tonnes, nous n'en parlons même pas. Alors, je vais vous entretenir rapidement sur les avantages comparatifs. Quels sont les avantages comparatifs? Bien. Les avantages comparatifs pour Africa Eyes d'abriter un capital semencier. La première des choses, c'est qu'Africa Eyes dispose d'une équipe d'experts. Une équipe forte d'experts semenciers et de techniciens. La deuxième chose, c'est qu'Africa Eyes travaille dans des stations décentralisées, notamment au Bénin, à Madagascar, au Nigeria, au Sénégal et en Sierra Leone. Sierra Leone, c'est là où nous faisons l'amélioration variétale pour les zones de mangrove, tout ce qui est zone salée, etc. Africa Eyes dispose à des relations très étroites avec les systèmes nationaux de recherche, les SNRA agricoles, et qui sont le prolongement. Nous travaillons dans le cadre de ce qu'on appelle groupe d'action, et ensemble nous montons les activités, ensemble nous les exécutons. Alors, en plus de ça, Africa Eyes dispose quand même d'un programme, le programme E, qui s'occupe d'amélioration génétique, de la diversité génétique. Africa Eyes dispose d'une banque de gènes, je crois que c'est Dr Marie-Noël, justement, il fera une présentation, avec 22 000 accessions, et ça c'est formidable. Ça veut dire que pratiquement l'ensemble des riz disponibles en Afrique, vous les avez. Je dis pratiquement parce que 100%, il ne faut pas y penser. Il faut laisser quand même entre les mains de la nature de nous sortir des nouveautés. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Mais c'est pour dire que ça a été assez bien ratissé. Nous disposons également d'une unité semences avec des experts. L'unité de semences a pour mission d'aller pour des productions de grande quantité. Et à ce niveau, j'y reviendrai. C'est là où nous développons le partenariat avec le secteur privé. Il y a un partenariat qui est en train de se développer, je crois qu'on va conclure bientôt, avec par exemple l'OCP. Nous travaillons avec certaines sociétés privées, notamment NAFASO. Faso Kaba, ça va démarrer. Et en Côte d'Ivoire, il y a AMC, Ganlogis, etc. Et là, ça permet vraiment d'aller pour des quantités importantes. Alors, tout juste rapidement ici, vous avez les différentes classes. J'ai préféré vous mettre ça tout simplement pour vous donner une idée. Vous avez, parce que quand on fait les étiquettes après contrôle, vous avez ce qu'on appelle les pré-bases G1, G2, G3, qui portent des étiquettes blanches avec rayures en violet. Et vous avez les bases qui portent des étiquettes blanches. Et vous avez les étiquettes bleues et rouges. Ce sont les semences certifiées qui, en général, sont produites par les entreprises semencières et les coopératives. La recherche se contentant de produire des pré-bases et des bases. Quels sont les bénéfices attendus? Première chose, chose fondamentale qu'on nous demandait, c'est de disposer de réserves, de stocks stratégiques. Stocks stratégiques, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens s'adressent à Africa Rice. 2008, c'était vraiment le défilé. Tout le monde dit Africa Rice, où sont les semences? Et quand vous dites qu'il n'y en a pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que ce que les Africains doivent comprendre, il ne faut pas attendre sous sa case qu'il pleuve pour après bouger et dire je vais chercher mes semences sur le marché. Ça n'existe pas. La semence, si tu la veux au mois de juin ou juillet, tu dois régler ce problème au mois de janvier, au plus tard d'ailleurs. Et ça aussi au CP. Il faut qu'on se lève de bonne heure. Alors, mais ça c'est important, les stocks stratégiques, parce que en cas de sécheresse, en cas d'inondation, en cas de guerre civile, immédiatement il faudra des semences. C'est la première chose, c'est le premier produit qu'on demande à Africa Rice. Hein? Je pourrais vous montrer rapidement ça, par exemple. Il y a des semences que nous avons envoyées dans les pays. Des semences que nous avons envoyées dans les pays. Et quand c'est pas, tout n'est pas assez bien préparé, quand tout n'est pas assez bien préparé, bon, ça devient assez difficile à faire partir. Bon, ça demande toute une organisation, etc. Alors, au-delà de ces... Alors, au-delà de ces stocks stratégiques, il faut se dire que le capital semencier va permettre de disposer au niveau des pays, d'exploiter au niveau des pays des variétés de caractéristiques assez diversifiées. Je parlerai des variétés de riz à cariopsis blanc, mais que vous connaissez habituellement, qui sont assez riches en glucides. Mais il y a les riz de cariopsis rouge et les riz de cariopsis noir, de cariopsis violet. Alors, ces genres de riz sont en général riches en vitamines. Hein, pour ce qui est des riz de cariopsis noir, ils sont en général riches en vitamine B, vitamine E, que vous connaissez bien, qui sont assez bien pour renforcer le système immunitaire, alors que les riz de cariopsis rouge sont souvent riches en fer et en zinc. Et avec l'OCP, nous avions et Nestlé entamé un certain travail à ce niveau pour voir comment exploiter ces riz qui ont une certaine teneur assez intéressante en fer. Je crois que si on y réussit ça, surtout pour les femmes, à une certaine période de la grossesse, ça peut être assez intéressant, ne serait-ce pour diminuer le nombre de comprimés qu'elles n'aiment pas du tout avaler d'ailleurs, hein, riches en fer. Mais le capital semencier devra permettre de mettre en place des systèmes semenciers fonctionnels, opérationnels. Alors, je vous ai mis ce que vous voyez, G0, G1, G2, G3. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que quand vous venez, vous dites, nous tous nous dormons et puis aujourd'hui on vient, on dit nous avons besoin de semences. La première réaction du chercheur, c'est de dire, où est-ce que je vais trouver le G0? Quand il trouve G1, il doit constituer ça. À la limite, s'il a le temps, il doit faire ce travail 4 ans avant. Dans la pratique, ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons anticiper. Mais si on n'anticipe pas, c'est comme ça que ça doit se passer. Et après, on devra faire intervenir notamment les services de contrôle, de vulgarisation, etc. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a l'ANADER, il y a l'ADERI, mais les services de contrôle, vous avez le LANADA, le LANASEM, vous avez les directions régionales d'agriculture et vous avez également le service semencier national, la SDC. Alors, quels sont les gains? Il y a des gains au niveau de la recherche pour les chercheurs, pour la recherche, mais il y a des gains pour le paysan. Le paysan, en utilisant une variété améliorée, il a une valeur ajoutée de plus de 65% en termes monétaires. Et quand c'est les entreprises, admettons dans le cadre de du programme d'autosuffisance alimentaire, si tout est bien fait, ben, on va se retrouver avec 1 500 000 tonnes de semences, ce qui fait 3 milliards de dollars de bénéfices. Je parle de bénéfices. Là, vous avez une diversité de riz. Ceux qui n'aiment pas beaucoup le sucre, je leur conseillerais par exemple le riz violet, qui n'est pas mal. Le riz noir, bon, c'est une question d'habitude. Certains n'aiment pas trop, moi j'ai bien aimé. Bon. Mais comme on le dit, des goûts et des couleurs, on ne discute pas trop. Là, ce sont les bénéfices attendus de ce programme. Hein, de ce programme, de mise en œuvre, ce programme d'établissement, de création de capital semencier. Pour Africa Rice et les SNRA, au minimum, il est attendu un bénéfice vers 2025 de 7500 des productions de 7500 tonnes. Les gens peuvent faire moins, peuvent faire plus du moins, peuvent faire plus. Parce que nous, nous disposons quand même de stations décentralisées, etc. Bon. Pour la production de semences certifiées, nous nous attendons pour l'autosuffisance alimentaire à 1 500 000 tonnes de semences, R2. Et pour, à partir de là, la production de pâtis, c'est 25 millions de tonnes. Mais 25 millions de tonnes, ça va concerner quelques 37 500 producteurs. Et quand on prend les gains, voici la masse financière que les gens auront à se partager. Cette manne financière, vous voyez ça très bien, 6 500 000, 500 000 dollars pour Africa Rice et les SNRA, 720 millions pour les coopératives, les entreprises privées, ben, ils sont bien servis. Hein. Les producteurs, c'est 3 250 millions. Les transformateurs, c'est autour de 738 millions de dollars. Les transporteurs, 530. Et les commerçants, 812 millions. Donc, vous voyez que ça brasse beaucoup, beaucoup de sous. Je veux peut-être vous dire en conclusion quelques idées seulement que nous avons ramassées. Ça et là. Tout en disant au passage que le capital semencier va devoir nous permettre de disposer d'informations à temps. Il y a des supports antiques qui sont à notre niveau, au niveau d'Africa. Mais le capital semencier va permettre également de régler le problème de traçabilité. Et parce que quand on pose le problème de qualité du riz sur le marché, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais le point de départ, c'est la semence de qualité. Cette semence de qualité qu'il faut suivre, qu'il faut traquer, savoir où est-ce qu'elle part. Elle passe au niveau des coopératives, au niveau des producteurs, ensuite au niveau des usiniers, et à partir des usines maintenant, ça va sur le marché et chez les consommateurs. Et tout ça, nous avons des outils pour en tout cas tracer ça. Ça, c'est un élément assez important, mais il y a une autre chose assez importante, c'est que vraiment, c'est un outil, c'est une bonne opportunité de forte collaboration entre les SNRA. Ça existe, mais on va renforcer la collaboration entre les SNRA et Africa Rice. Mais ce qui sera intéressant, c'est que pour une fois, on pourra générer des revenus qui seront réinjectés dans le système pour avoir en tout cas un support, un outil de recherche de qualité. La deuxième chose importante à l'heure actuelle, c'est l'emploi des jeunes. Un programme comme ça, si c'est déployé normalement, au minimum vous avez 150 chercheurs et techniciens qui vont être impliqués dans les 26 pays membres d'Africa Rice. Ensuite, vous aurez les coopératives, les entreprises. C'est 150 000. Nous calculons, chaque entreprise ou coopérative doit produire autour de 100 tonnes. 100 tonnes, hein, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, après, ça pourra passer, pour ce qui est des entreprises privées, à 150-200 tonnes hein, par an. Et les fermiers, les paysans, c'est autour de 37 500 000. Alors, comme vous le voyez bien, c'est une opération qui est assez intéressante, qui est rentable en termes financiers, mais également qui est rentable en termes de mise en place de dispositifs opérationnels, mais aussi d'amélioration de la diversité génétique. Et ça, c'est fondamental, la diversité génétique des espèces. Hein? Parce que quand on parle de changement climatique, etc., quand il y a des difficultés, on retourne à la case de départ, c'est-à-dire nous retournons à la banque de gènes. Qu'est-ce que nous cherchons? Ce sont les gènes qui viennent d'espèces sauvages. Et pour soutenir tout ce programme, nous estimons qu'il faut un financement durable. Sinon, nous devrons nous contenter des aspects de production qu'il faudra mettre sur le marché. Mais ça, ça va prendre du temps. Nous pensons que si l'on taxe sur les importations 0,5 francs CFA, c'est pas beaucoup pour demander. Ça fait 0,001 $. Hein, si l'on taxe ça pour chaque kilogramme de riz introduit dans l'espace CEDEAO, par rapport à la production de 9 800 000 tonnes tout dernièrement de 2017, ben nous pourrons avoir quelque 9 millions, ce qui représenterait pour le budget d'Africa Est en tout cas 36% de son fonctionnement. Je crois que si nous réussissons ça, nous allons régler le problème du financement et vous n'entendez plus les chercheurs en tout cas se plaindre de financement. La durabilité, c'est ça. Il faut que les Africains prennent leur sort en main. On ne peut pas passer notre temps à compter sur des financements extérieurs, des financements qui arrivent pas toujours, et même quand ça arrive, ils n'arrivent pas toujours à temps. Voilà, chers amis, lorsque tout marche bien, voilà ce que ça donne.